Vous avez confessé l'hérésie dans la torture !»«
Dans la torture !» répéta le tabernacle.
« Je retire tout !» dit le grand maître. « Tout !»
répondit en grondant la cathédrale entière. Un nouvel interlocuteur entra dans cet étrange dialogue. Geoffroy de Charnay, à son tour, s'en prenait à l'archevêque de Sens.
« On a abusé de notre affaiblissement !»
disait-il.
« Nous sommes victimes de vos complots et de vos fausses promesses. C'est votre haine et votre vindicte qui nous perdent. Mais je l'affirme aussi devant Dieu. Nous sommes innocents, et ceux qui disent autrement en ont menti par la bouche !»
Alors les moines qui se tenaient derrière le tribunal se mirent à crier
« Hérétiques ! Au feu les hérétiques !»
Mais leurs invectives n'eurent pas le résultat escompté. Avec ce mouvement d'indignation généreuse, qui le porte souvent au secours du courage malheureux, le peuple, en majorité, prenait parti pour les Templiers. On montrait le poing aux juges. Des bagarres éclataient à tous les coins de la place. On hurlait aux fenêtres. L'affaire menaçait de tourner à l'émeute. Sur un commandement d'Alain de Pareille, la moitié des archers s'était formée en chaîne, se tenant par les bras pour résister à la poussée de la foule, tandis que les autres, pique abaissée, faisaient face. Les sergents royaux, de leurs bâtons à fleurs de lys, frappaient à l'aveuglette dans la presse. Les cageots de marchands de poulets avaient été renversés et les cris de la volaille piétinée se mêlaient à ceux du public. Le tribunal était debout. Jean de Marigny se concertait avec le prévôt de Paris.
« N'importe quoi, monseigneur, décidez n'importe quoi !» disait le prévôt. « Mais il ne faut point les laisser là, nous allons tous être emportés. Vous ne connaissez pas les Parisiens lorsqu'ils s'agitent !»
Jean de Marigny leva sa crosse épiscopale pour signifier qu'il allait parler, mais personne ne voulait plus l'entendre. On l'accablait d'insultes.
« Tourmenteur, faux évêque, Dieu te punira !»«
Parlez, monseigneur, parlez !» lui disait le prévôt.
Il craignait pour sa situation et pour sa peau. Il se souvenait des émeutes de 1306 où l'on avait pillé les hôtels de bourgeois.
« Deux des condamnés sont déclarés relapses, » dit l'archevêque, forçant vainement la voix. « Ils sont retombés dans leur hérésie. Ils ont rejeté la justice de l'Église. L'Église les rejette et les remet à la justice du roi. »
Ces paroles se perdirent dans le vacarme. Puis, tout le tribunal, comme un troupeau de pintades affolées, rentra dans Notre-Dame, dont le portail fut aussitôt fermé. Sur un geste du prévôt, à Alain de Pareille, un groupe d'archers se précipita vers les marches. Le chariot fut amené et les condamnés poussés dedans à coups de manche de pique. Ils se laissèrent faire avec une grande docilité. Le grand maître et le précepteur de Normandie se sentaient à la fois épuisés et détendus. Ils étaient enfin en paix avec eux-mêmes. Les deux autres ne comprenaient plus rien. Les archers ouvrirent le chemin au chariot, tandis que le prévôt Ploy-Bouche donnait des instructions à ses sergents pour qu'on nettoyât la place au plus vite. Il virait sur lui-même, complètement débordé.
« Ramenez les prisonniers au temple !»
cria-t-il à Alain de Pareille.
« Pour moi, je cours en aviser le roi !»